Je suis en ligne avec Alain Mounier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous êtes le dessinateur de la bande dessinée L'École Buissonnière, sortie chez Grand Angle. Le scénario est écrit par Patrice Hordas. Cette histoire suit quatre élèves de terminale qui ont passé leur bac une année encore pire que les sessions de 2020 ou peut-être même celle de 2021. En effet, l'histoire de L'École Buissonnière commence en décembre 43, et cette année-là, pour se protéger du virus, un masque et un confinement ne suffisaient pas. Alain Mounier, pouvez-vous un peu nous plonger dans l'ambiance de cette bande dessinée ?
Alors oui, effectivement, donc on est en 43, la fin de l'année, le bac 44 donc se prépare, évidemment. Et puis, pour ces lycéens, plus exactement, il va se passer un petit truc. Alors, je précise que tous les événements sont vraiment arrivés, en fait. Donc, c'est le père du scénariste, de Patrice Hordas, qui a connu tous ces événements alors qu'il était âgé de 16-17 ans, hein, finalement, en 44. Alors, 43, il avait 16 ans, 17 en 44, si mes souvenirs sont bons. Et donc, tout ce qui arrive dans cette BD a été inspiré par des choses qui sont arrivées au père de Patrice Hordas ou à des combattants qui étaient aux côtés du père de Patrice Hordas. Voilà.
Et l'histoire commence à Neuilly-sur-Seine.
Alors ça commence, en fait, ça commence par... alors il y a deux choses qui vont arriver en même temps. Il y a un des lycéens qui a des origines juives, donc ça pose un problème puisque les Allemands commencent à rafler. Et puis, lors d'une promenade au bois de Boulogne, un des lycéens bouscule un soldat allemand qui tombe à l'eau. Et là, à partir de là, ils vont s'imaginer, ils vont se faire peur un peu tout seuls, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment grand monde à leur poursuite, hein. Mais ils s'imaginent que voilà, les Allemands, la Gestapo surtout, va essayer de les retrouver pour les punir, etc., etc. Et donc, ils songent à quitter Paris pour aller se réfugier dans la demeure d'un des lycéens, demeure familiale, un château en Corrèze. Et malheureusement, le château est occupé déjà par les Allemands. Et donc, ils vont se retrouver, bon gré mal gré, au sein du maquis, en fait, qui est là pour les accueillir, puisqu'ils ne peuvent plus aller nulle part ailleurs. Et voilà. Et donc là, ils résistent finalement comme ils peuvent. Et voilà, c'est une suite de petits événements qui les ont conduits là. Et puis, bon, mis à part peut-être pour un des lycéens avec ses racines juives qui étaient vraisemblablement sérieusement en danger, ils se sont un peu montés le gourichon tout seuls, quoi, en fait.
Voilà. Ouais. C'est pas par conviction.
Parce que la Gestapo et l'armée allemande avaient autre chose à faire que de courir après deux, trois lycéens qui avaient fait tomber un soldat allemand à l'eau. Hein. Ça, c'est clair. Voilà.
L'ambiance commençait un peu à devenir plus pesante, peut-être avec les Allemands, parce qu'ils étaient déjà là, ils occupaient Paris depuis longtemps.
Les Allemands étaient en train de se prendre déjà une déculottée en Russie, hein, donc ils commençaient à devenir nerveux, commençaient à avoir un petit peu des espions de partout, des résistants de partout. Voilà, donc c'est vrai que c'était encore plus sombre, on va dire. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que la tonalité de l'album, j'ai volontairement travaillé essentiellement avec des gris et des marrons. Alors évidemment, c'est pas très folichon quand on tourne les pages, c'est pas le 14 juillet. Hein. Mais voilà, c'est parce que je pense que c'était quand même une période sombre. Voilà, c'est difficile pour nous d'imaginer, encore que maintenant, parce qu'avec tout ce qui se passe, hein. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas polémiquer non plus. Enfin bon, on a l'impression que les heures sombres sont de retour, hein, donc on a peut-être une petite idée, mais c'était quand même pire.
Ouais, ça, c'est assez glaçant. Hein. Moi, j'ai pas trouvé que c'était sombre. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai retenu de tout ça. Bah, déjà, l'histoire est très émouvante, quoi. C'est
oui.
On s'attache à ces quatre élèves, on les suit dans leur pérégrination jusqu'en Corrèze. Et puis, bon, après, voilà, hein, je ne vais pas raconter tout ce qui se passe, mais voilà. C'est très émouvant. J'étais au bord des larmes, je dois vous avouer.
Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Donc, je me dis, bon, mission accomplie, d'autant que, vous devez le savoir, donc Patrice Hordas nous a quittés. J'avais juste attaqué les toutes premières pages, en fait. Donc, il n'a pas vu les pages, il n'a pas vu l'album non plus. Mm. Et donc, c'était d'autant plus émouvant, quoi, à dessiner, quoi. Mm.
Et c'était aussi un album, je pense, qui lui tenait à cœur, du coup, comme c'est un peu l'histoire
Absolument,
de son père.
Oui. Alors, il y a une version toilée qui existe aussi, dans laquelle il y a un cahier supplémentaire, encore de 8 pages, où il raconte finalement la guerre de son père. Quoi, voilà.
D'accord, d'accord. Parce que là, déjà, à la fin, il y a des... je ne sais pas comment on appelle ça, un cahier graphique.
Ah oui, le cahier graphique.
Oui, c'est très beau, voilà. Les planches.
Voilà, avec des dessins supplémentaires, oui. Il y a des études aussi, faites par, je crois qu'il s'appelle, j'espère que je dis bien son prénom, je crois que c'est Laurent Hirn, qui a fait des études, je suis assez nul, moi, pour les recherches de couverture, donc chez Bambou, ils ont délégué, et puis, oui.
D'accord, donc, c'est des essais pour la couverture, oui. D'accord.
Oui, il y a eu plusieurs. Et puis bon, okay. J'ai choisi celle que je préférais. Et puis voilà.
Ouais.
Et oui, donc dans la version toilée, il rajoute encore un cahier supplémentaire de 8 pages où, comme je disais, Patrice Rodas raconte l'histoire de son père. Quoi. Voilà. Non, ça fait des jolis bouquins à l'arrivée. Quoi.
Vous pouvez nous présenter un petit peu, nous parler de lui, de Patrice Rodas, son parcours et.
Oula, alors là, vous aurez plus de renseignements chez Bambou. Il a été directeur, si mes souvenirs sont bons, d'une école de joaillerie. Il a fait de la bande dessinée dans sa jeunesse aussi. Je crois qu'il avait travaillé, je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est pour ça que vous auriez de meilleurs renseignements avec Bambou.
Mais il s'est mis tardivement à l'écriture. En
fait, tardivement, je ne sais pas, mais je pense que lui, il aurait, il se destinait plutôt à être romancier, voilà. Et en fait, il est arrivé dans la bande dessinée par le plus pur des hasards. Il a croisé le chemin de Patrick Othiès, qui a su le convaincre de se lancer dans la bande dessinée. C'est comme ça qu'il a mis les deux pieds dans la bande dessinée, quoi. Mais je pense que lui, au fond et au début, c'était, il se voyait plutôt romancier qu'autre chose, quoi. Voilà. Après, bon, il s'est pris au jeu, hein, puisqu'il a quand même, chez Bambou, une production en tant que scénariste assez conséquente, quand même. Nous, on a travaillé ensemble sur Ambiance 13, donc il y avait 9 albums quand même dans la série. Donc là, c'était mon 10e album avec Patrice Ornès, là, toujours pour Bambou.
Et c'était
une encyclopédie. C'était une encyclopédie à lui tout seul. On avait l'impression qu'on pouvait pas le prendre en défaut sur quoi que ce soit, au niveau de l'histoire, hein, la géographie aussi, mais particulièrement l'histoire. Ouais, c'était un vrai bonheur de discuter avec lui, quoi. On se sentait un peu stupide d'ailleurs. Et puis quelqu'un d'adorable, quoi, voilà. C'est, comme je le dis d'ailleurs en hommage dans l'album, il a toujours eu un regard bienveillant sur mon travail et c'était.
Oui, j'allais vous demander un peu comment s'est fait la connexion pour faire cet album, mais du coup, vous avez déjà travaillé avant sur Ambulance 13. Et donc c'est vous connaissiez bien et l'idée est venue de lui, j'imagine, puisque c'est son histoire et il vous a demandé de travailler dessus.
Ambulance 13 était déjà inspiré de ce qui était arrivé à son grand-père sur les champs de bataille, hein, de 14-18. Donc voilà. Et en fait, bon, c'est vrai qu'on s'est trouvé sur ce sujet-là parce que moi, je m'étais toujours dit que le jour où je m'embarquerais dans un récit historique, parce que c'est... C'est pénible à faire, hein. Il y a tout le temps des recherches de doc à faire, il faut compter le nombre de boutons sur les uniformes, etc. etc. Et je m'étais toujours dit que je me lancerais là-dedans sur un sujet qui serait la guerre 14-18, parce que je ne sais pas pourquoi cette guerre m'a toujours fasciné, je ne sais pas, déjà depuis tout petit, enfin tout petit, disons que j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à m'attaquer à la littérature, hein, les croix de bois, la peur, etc. Et donc là, on me propose ça, et je lis, et puis je dis, oui, voilà, c'est ça que j'attendais. Donc voilà, lui, il était passionné par le sujet, moi aussi, donc je pense que déjà, ça a fait en sorte que ça a bien fonctionné dès le premier jour, quoi, quasiment. Voilà.
Parlons un peu de vous maintenant, et de votre dessin. Je n'ai pas l'habitude de voir du dessin de bande dessinée comme ça. Il n'y a pas de traits noirs.
Voilà.
Vous faites les couleurs, vous êtes dessinateur et donc coloriste aussi de cet album. Et comment vous êtes pris ? C'est quoi ? C'est de l'aquarelle ?
C'est uniquement de l'aquarelle, oui. Ouais. Oui, alors c'est ce qu'on appelle la couleur directe, du coup. Donc, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'album, c'est les planches sont à l'identique. Hein. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de post-production parce que Après, il y a des auteurs qui rescannent, qui peuvent éventuellement rescanner leurs planches en couleur et puis les retravailler ensuite à l'ordinateur pour accentuer des effets ou ceci ou cela, ou corriger des fois des erreurs. Donc moi, non. Je travaille avec uniquement des pinceaux et puis des aquarelles. Hein. Et c'est à couleur directe. Alors, évidemment, quand on n'a plus le support du trait noir, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'en fait, on travaille comme un illustrateur, hein, parce que à la base, sur la planche, j'utilise une ligne très sèche, un crayon papier, donc avec une ligne très sèche, pour pas laisser trop de traces, pour pas que ça se mélange avec l'aquarelle. Hein.
D'accord.
Sinon, ça ferait tout cracra. C'est vraiment réduit au strict minimum, c'est uniquement pour les emplacements, les volumes, et puis ça s'arrête à peu près là, parce que de toute façon, au premier jus de l'aquarelle que je vais mettre sur la planche, le trait au crayon disparaît tout de suite. Donc après, ouais, c'est un travail différent, hein, puisque comme il n'y a pas le support du trait noir, il faut tout construire, quoi, les visages, c'est un autre boulot, quoi. C'est plus long, hein, aussi. Et puis bon, comme c'est mon premier album, j'avais pas encore les tics, les habitudes, beaucoup d'incertitudes aussi. Comme c'est de l'aquarelle, ce sont des couleurs qui sont, plus transparentes, on va dire, que la gouache ou l'huile. Donc j'avais un peu peur de ce que ça allait donner avec les scans, parce que les scans risquaient de javeliser les couleurs, tout ça. Et puis, en plus, j'avais amené les premières pages chez Bambou, et ils avaient commencé à en scanner quelques-unes pour voir. Et j'avais noté que tout ce qui était bleu pâle disparaissait purement et simplement. Donc, c'était extrêmement gênant, puisqu'il y avait quand même pas mal de scènes qui se déroulaient sous la neige. Et je me dis, si tous mes bleus pâles disparaissent, ça va être compliqué.
Il ne reste plus grand-chose, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est volontairement que, du coup, il n'y a pas de bleu. Donc, il n'y a aucun vrai bleu qui est utilisé. C'est ce qu'on appelle le gris de pen. C'est un gris bleuté qui sort plus ou moins bleu selon qu'on le dilue plus ou moins. Et je me disais, comme ça, peut-être que... Et puis, effectivement, c'est bien sorti, mais ils se sont adressés à... ils sont allés chez des spécialistes, on va dire, à Lyon, pour être certains d'avoir un bon résultat, quoi, au niveau des scans. Et c'est vrai que, franchement, je vois pas beaucoup de différence entre le dessin original et puis ce qu'il y a dans l'album. Hein. Ça m'a un peu... Du coup, j'ai quand même pas mal stressé à cause de ça.
j'imagine. Ouais. Si c'est la première fois que vous travaillez, c'est la première fois que vous faisiez un album à l'aquarelle, en fait. Là.
Ah oui, c'est d'accord. La première fois, j'avais déjà fait des illustrations, mais bon, ça c'est différent, c'est vraiment, c'est pas comparable. J'ai essayé des choses, les scènes nocturnes, tout ça, j'étais pas du tout sûr de ce que ça allait donner. J'avais peur que les noirs ressortent gris, des trucs comme ça. Donc j'y allais à dose homéopathique, j'ai fait un peu de ci, un peu de ça, en me disant, bon, si c'est foiré là, au moins ça va pas être foiré sur les 54 pages. Ouais, j'ai avancé vraiment comme un sioux, imprudemment, on va dire. Et puis j'étais vraiment très content quand j'ai vu apparaître les scans, j'ai dit, waouh, bon, finalement, si j'avais su, je ne me serais pas inquiété autant et je n'aurais pas stressé autant.
Voilà. Ouais, c'est un peu l'inconnu. Hein. En tout cas, ça donne envie de voir les originaux quand même. Je serais curieux de voir. Parce que du coup, la taille, c'est beaucoup plus grand.
On rendra toujours mieux de toute façon, parce qu'on a vraiment... En plus, il y a un truc qui est absent, là. C'est le grain du papier aussi. Mine de rien, ça fait beaucoup aussi.
Ouais.
D'avoir le grain du papier en plus. Et puis bon, le format est plus grand, donc évidemment, on en a un peu plus plein les yeux. Mais en tout cas, là, ce format-là, ça sort bien quand même. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à voir ça avec eux. J'aurais préféré peut-être un papier mat pour éviter les effets un peu de
reflets.
De reflets, ouais, qui viennent un petit peu. C'est fragile, l'aquarelle, en fait. Donc, même une fois scanné, c'est. Il faut vraiment. Voilà.
Ouais, je suis encore plus impressionné là. Bon, le travail que c'est fou. Mmh. Ouais. À l'aquarelle, les visages, ça rend vraiment très bien. C'est.
Ouais, en fait, c'est une succession de passages. Hein, de toute façon, c'est ce qu'il y a de pratique finalement en définitive avec l'aquarelle. Alors par contre, il faut un bon papier. Hein, il faut un papier avec un bon, voire un très bon repentir. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir passer plusieurs fois. Un pinceau, donc aquarelle, mais surtout plein d'eau, sur le papier sans que celui-ci commence à pelucher. Et alors là, l'essai peut être absolument dramatique.
Peut gondoler aussi, non?
Ouais, ça peut gondoler aussi, mais bon, après, mais là même, pourtant j'utilisais des papiers assez épais, je les pressais ensuite sous une pile de bouquins pour aplatir, voilà. Mais c'est pas ça le gros problème. Si ça fait des creux, effectivement, l'aquarelle peut s'y réfugier dedans, effectivement. Une fois que c'est sec, ça peut faire bizarre, oui. Mais en même temps, l'aquarelle, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a ce côté aussi improvisation, et puis je cherche le mot, le truc qu'on n'attend pas, qui surprend, qui...
Le hasard, quoi, qui joue.
Oui, voilà, parce que, tout à coup, vous êtes là avec votre pinceau, vous passez votre aquarelle, et puis vous dites, je touche plus à rien, parce que là, il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a eu beaucoup d'aléatoires, on va dire, dans cette technique, et parfois, alors évidemment, c'est dramatique, donc il faut refaire, et là, c'est là qu'on est content d'avoir un papier avec un très bon retentir, parce qu'on peut rincer, hein, purement et simplement, c'est-à-dire faire disparaître le travail qu'on a fait.
Ah oui, quand même, ouais, d'accord.
Ah oui, il y a juste quelques pigments qui sont un peu plus têtus, alors qui vont rester un petit peu, mais alors ça, évidemment, c'est un gros avantage. C'est que quand on fait une bêtise, on peut rincer et puis recommencer.
On a le droit à l'erreur quand même, ça va.
Voilà, c'est ça. D'où le nom du repentir. Pour le
d'accord.
Papier, voilà. Et donc ça, oui, ça c'est. Il faut bien qu'il y ait quand même des avantages à cette technique, parce que bon, il y a quand même des inconvénients. Mais ça fait partie des avantages, oui. Et en fait, on a la possibilité, en retravaillant, c'est-à-dire en passant une couleur, puis une autre par-dessus, puis on mêle les couleurs, et puis on en arrive à des dégradés, des choses qui seraient beaucoup plus difficiles à faire à la gouache ou avec l'huile, par exemple.
Ouais, la neige, ça rend vraiment très bien. Hein. Aussi le bois, là, je regardais les arbres sur la couverture, là...
Oui, ouais, il y a des. Alors ça, c'est là qu'on est content d'avoir un papier avec du grain, parce que par exemple, je me suis amusé. Enfin, il y a des planches, il y a toujours des trucs un peu en bois, des meubles en bois, enfin des trucs comme ça. Et le fait d'avoir, par exemple, le pinceau un peu plus, avec moins d'eau, un peu plus sec, et donc du coup, l'aquarelle s'accroche sur les aspérités du papier, on va dire. Et là, tout à coup, vous avez des effets bois ou des effets de pierre, enfin des trucs comme ça qui apparaissent et voilà, puis là c'est le hasard parce que et puis c'est vrai que ça fait l'impression des gens qui me l'ont dit quand ils regardent certaines liettes, on dirait une photo là, c'est oui, effectivement ça fait des choses qui sont tout à coup très réalistes et c'est bien aussi, même si moi je cours pas après l'hyperréalisme, hein, c'est pas le truc qui m'intéresse vraiment, mais j'aime bien qu'on voit au contraire les fêlures, les petits peu les défauts, les approximations, c'est bien aussi. Pas qu'il y en ait trop non plus, pour trouver le bon dosage.
Mais du coup, là, maintenant, j'ai envie de voir ce que vous avez fait comme autre bande dessinée, et, avec d'autres, avec de la gouache, ou enfin, je sais pas avec quoi vous avez travaillé les autres fois avant.
Ah non, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est l'encre de Chine, c'est noir et blanc, hein, et puis après, c'est un coloriste qui prenait la relève. Alors, il y a eu une époque où ils prenaient la relève avec leur pinceau, maintenant c'est avec l'ordinateur. Et là, sur Ambulance 13, c'était toujours le même coloriste, mais qui travaillait à l'ordinateur, quoi.
Ah oui, d'accord, c'est vraiment la première fois que vous travaillez la couleur, là, en plus.
Ah oui, enfin, j'ai fait des pages en couleur directe, mais ça remonte à la nuit des temps. Ça, c'était pour l'édition Glénard, il faut remonter dans les années 70-80. Mais c'était resté très, très confidentiel, on va dire, comme production. Et puis, oui, ça me trottait dans la tête depuis un bout de temps. J'avais failli le faire pour Ambulance 13 d'ailleurs, mais j'avais pas assez confiance en moi. Parce que comme je savais que c'était une série de plusieurs albums, je me disais, si ça marche pas sur le premier, tu vas faire quoi pour le deuxième?
Oui, là c'est une histoire complète, hein, ce livre.
Oui, voilà, c'était un one shot, et là je me suis dit, bon, allez, je me lance là du coup, parce que voilà, c'est le moment où jamais, quoi.
Et Alain Mounier, est-ce que vous travaillez sur de nouveaux projets?
Voilà, je reste sur la Seconde Guerre mondiale, toujours chez Bambou. Ils ont une collection qui s'appelle Les Compagnons de la Libération, là, qui parle des Compagnons de la Libération que le général de Gaulle avait nommés à la suite, selon qu'ils étaient résistants, qu'ils avaient combattu dans la colonne Leclerc, bref, qui s'étaient distingués, on va dire. Et là, il n'en reste plus qu'un de vivant, c'est Hubert Germain. Et donc, c'est son histoire que je dessine en ce moment. Voilà. Je pense pense que c'est le dernier album que je ferai sur la Seconde Guerre mondiale, parce que j'ai fait déjà une décennie de Première Guerre mondiale, pourtant j'envisage pas de faire une décennie maintenant de Seconde Guerre mondiale. J'apporte ma modeste pierre à l'édifice du devoir de mémoire, on va dire, voilà. Et ce monsieur, il a 100 ans, là, il a fêté ses 100 ans, là, en plein début du Covid, là.
D'accord.
Et donc, oui, ce serait bien que cet album sorte, effectivement, quand il est encore parmi nous, quoi.
Voilà. C'est prévu de sortir chez Grand Angle aussi ?
Non, alors ça, je sais pas si ça sort chez Grand Angle. C'est la collection, c'est une collection, les Compagnons de la Libération, donc je sais pas si c'est dans Grand Angle.
D'accord.
Je ne saurais pas dire, en fait.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Alain Mounier, d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Au revoir.